Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richet, Sarah Petitbon, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Pierrick Mancini. Contrairement à ce qui était annoncé hier à Moscou, l'OTAN ne confirme pas le retrait des troupes russes à la frontière ukrainienne. Mais ce retrait aura bien lieu, Angela Merkel en est persuadée. La chancelière allemande assurait tout à l'heure qu'elle n'avait pas de raison d'en douter. « Je ne peux que me baser sur ce que dit le président russe », a-t-elle ajouté. Il est vrai que Vladimir Poutine a démontré qu'on pouvait lui faire confiance. La Crimée, c'est désormais certain, va passer par pertes et profits, en dépit d'un accord conclu il y a 20 ans entre la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Ukraine. Accord visant à assurer l'intégrité territoriale de celle-ci en échange de sa dénucléarisation. À l'époque, l'ex-République soviétique était un des pays au monde les plus nucléarisés. Alors que se serait-il passé si Kiev avait conservé ses capacités de dissuasion ? Les Russes auraient-ils agi avec la même désinvolture ? C'est une des nombreuses questions posées depuis le début de cette crise. Question assortie d'interrogations sur un possible effet en cascade. Car comment convaincre des pays de renoncer au nucléaire militaire, comme le prévoit le traité de non-prolifération, si cette démarche ne garantit pas en retour une véritable protection ? Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, faisait part de ses inquiétudes la semaine dernière au sommet sur la sécurité nucléaire à La Haye. La crédibilité des garanties données à l'Ukraine, disait-il, a été sérieusement entamée. Les implications sont profondes, notamment pour l'intégrité du régime de non-prolifération nucléaire. Alors la crise ukrainienne remet-elle en cause la dénucléarisation du monde ? C'est notre sujet du jour. Et deux invités pour en débattre ce soir. Paul Quilès, bonsoir.
Bonsoir.
Maire de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Vous avez été réélu dès le premier tour pour un maire avec une étiquette socialiste. Enfin, je ne sais pas si c'est une étiquette que vous portiez lors de cette élection.
Il y avait trois listes. Bon.
Ah, donc quand même, c'est suffisamment rare à gauche en ce moment pour le signaler. Si nous vous avons invité ce soir, c'est pas en tant que maire de Cordes, mais comme ancien ministre de la Défense. Vous avez été pendant quelques mois de 1985 à 1986, longtemps chargé des questions de défense au Parti Socialiste. Et vous avez publié l'an dernier au Cherche Midi avec Bernard Norlin et Jean-Marie Collin, Arrêter la bombe, un ancien ministre de la Défense contre l'arme nucléaire. C'est le bandeau qu'on peut lire sur ce livre. Pour discuter avec vous ce soir, Camille Grand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous donnez notamment des cours à Sciences Po sur les questions du nucléaire. Je crois me souvenir que vous avez fait, vous aussi, un passage au ministère de la Défense. Pas comme ministre, hein, ça, on s'en souviendrait. Enfin, bon, voilà, dans les couloirs du ministère. Alors, autant poser peut-être la question, je ne sais pas si c'est une question qui fâche, mais enfin, une question qui mérite sans doute d'être évacuée le plus vite. Cette question étant la suivante, c'est celle que j'ai évoquée dans le lancement de cette émission. Est-ce que, selon vous, Paul Quilès et Camille Grand, les choses se seraient passées autrement en Ukraine et en Crimée si l'Ukraine était restée nucléarisée ? Paul Quilès.
Si je peux vous poser une question, est-ce que vous croyez vraiment que si l'Ukraine avait gardé les 1900 armes nucléaires qu'elle avait, les choses se seraient passées différemment.
Est-ce que vous laissez croyez... répondre à cette question ?
Mais non, mais est-ce que... Des fois, les questions semblent ne pas se poser, en tout cas dans certains termes. Croire ou faire croire que la disposition de ces 1900 armes nucléaires par l'Ukraine aurait effrayé la Russie, parce que, bien évidemment, Kiev aurait menacé Moscou de destruction ou je ne sais quel autre lieu stratégique de la Russie.
Les Russes auraient peut-être davantage réfléchi ?
Mais je ne vois pas en quoi le fait qu'un pays détienne l'armement nucléaire empêche des conflits locaux. On a dit et on a répété pendant 45 ans, un peu plus, on continue encore un peu à le dire, que le nucléaire était dissuasif, c'est le principe de la dissuasion. Enfin, on dit ça. Pendant des années, on n'a pas dit que c'était une dissuasion, on a dit que c'était une superbe artillerie. Ensuite, on a parlé de riposte graduée. Enfin, il y a eu toute une série de doctrines. Mais disons, globalement, on dit que c'est la dissuasion. On a même dit que c'était une arme de non-emploi. Après, on a dit, mais ce n'est pas vrai, il ne faut pas le dire. Une arme d'emploi parce que c'est tellement terrifiant de la mettre en œuvre, avec des conséquences épouvantables pour peut-être une partie de la planète, hein, qu'on ne peut pas s'en servir. Donc, c'est le principe, c'est la doctrine. Mais c'était, à l'époque, c'est ce qu'on disait, à l'époque de l'affrontement Est-Ouest, de la guerre froide, comme on a dit, c'était une arme de dissuasion faite pour ne pas être utilisée. Et il en fallait de plus en plus. On en montait jusqu'à 70 000 armes. On en est maintenant à 17 000. Donc, c'est un peu mieux. On est encore loin de la dénucléarisation dont vous parlez. Il faut y aller. En tout cas, c'est que moi, ce que je souhaite, progressivement, ça ne va pas se faire en un jour, évidemment.
Donc avec ou sans armes nucléaires, il se passait exactement la même chose.
Exactement, je ne sais pas. Exactement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça n'aurait pas été la présence du nucléaire qui aurait modifié une situation qui a d'autres ressorts et à laquelle il faut apporter d'autres réponses.
Alors je ne sais pas si Camille Grand va aussi me répondre en me posant une question.
Non, mais je crois que ce qui est vrai, c'est que la crise ukrainienne n'est pas une crise nucléaire. C'est-à-dire que c'est une crise entre deux États souverains, qui a des ressorts territoriaux, avec une Russie plus agressive qui cherche à revenir sur une partie de l'héritage de la guerre froide.
Elle ne l'est pas, mais est-ce qu'elle aurait pu l'être ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la décision ukrainienne de se dénucléariser parmi les républiques successeurs de l'ex-Union soviétique, l'Ukraine était 4 détenaient des armes nucléaires sur leur territoire, hein, outre la Russie et l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et l'Ukraine était la seule qui était en mesure d'éventuellement, mais à un coût très élevé, rester une puissance nucléaire. Et c'est le seul pays dans lequel il y a eu un vrai débat sur cette question dans les années 91-94. Le paradoxe, c'est que effectivement l'Ukraine a accepté de manière un peu réticente cette dénucléarisation et d'entrer dans le traité de non-prolifération en contrepartie d'un arrangement auquel vous faisiez référence, qui est le mémorandum de Budapest, signé par les 3 États dépositaires du traité de non-prolifération, donc Russie, États-Unis et Royaume-Uni, également signé, et ça c'est intéressant, par la France et la Chine comme État doté. Hein, le président Mitterrand envoyait à cette occasion une belle lettre au président ukrainien pour lui donner des garanties de sécurité en contrepartie de cette dénucléarisation, et qu'aujourd'hui, effectivement, l'Ukraine voit son territoire amputé de la Crimée et son intégrité menacée par son grand voisin nucléaire, la Russie. Alors, derrière tout ça, la question qui se pose ne me semble pas centrée sur l'Ukraine elle-même, mais en réalité sur le message que nous adressons aux États à qui nous demandons, avec un peu d'insistance, de renoncer à leurs ambitions nucléaires.
Comment vous le qualifieriez justement ce message ?
Et qui est de dire aujourd'hui aux Iraniens, aux Nord-Coréens par exemple, faites les bons choix et vous aurez des garanties de sécurité pour votre avenir, vous ne serez pas embêtés demain par les uns ou les autres. Ces pays-là, qui raisonnent en termes peut-être pas très sophistiqués, disent au fond, l'Irak a été dénucléarisé et on a lui retiré son programme d'armes de destruction massive et a fini par être envahi en 2003. La Libye a fait le même choix et a fini par être envahi en 2010. Et l'Ukraine aujourd'hui. C'est ça, finalement, le message.
Il n'y a pas de relation cause à effet, excusez-moi. Il n'y a pas de relation cause à effet. Que vous parliez de Kadhafi ou de Saddam Hussein, il n'y a pas de relation de cause à effet. Du fait qu'ils n'avaient plus d'armement nucléaire, ils ont eu une catastrophe.
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres raisons qui ont mis ces régimes au bord de l'abîme, que ce soit Saddam Hussein, Kadhafi, ou dans la situation ukrainienne aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, et c'est ça qui me préoccupe, c'est la perception que peuvent avoir des pays comme l'Iran, comme la Corée du Nord, des engagements pris par la communauté internationale en contrepartie de leur dénucléarisation.
Paul Kies, est-ce que vous êtes d'accord en tout cas que ce qui vient de se passer en Ukraine peut avoir un effet négatif, en tout cas atténuer la portée du discours de non-prolifération par rapport à des pays à qui on le demande
je ne le crois pas. Bon, écoutez, franchement, parler de la Corée du Nord...
En tout cas, ça peut peut-être être utilisé justement par la Corée du Nord. La Corée du Nord peut très bien...
Mais s'en fiche complètement. Ils sont en train de continuer leurs essais. C'est de la gesticulation pure et simple. Personne ne pense un seul instant que la Corée du Nord va attaquer les États-Unis.
Mais la Corée du Nord possède aujourd'hui un argument supplémentaire peut-être pour continuer dans sa course aux armements.
Mais qu'ils utilisent des arguments, c'est possible. C'est de la gesticulation et c'est rien d'autre. Et quand tu as parlé de l'Iran à propos du nucléaire, chacun sait très bien qu'il ne s'agit pas de leur donner des garanties d'inviolabilité ou d'intangibilité de leurs frontières, mais il s'agit de tout autre chose. Et on voit bien les négociations actuelles, qui sont loin de terminer, mais qui sont en cours quand même, vise à permettre à l'Iran de retrouver un rôle au niveau régional. Mais permettez-moi de vous donner des exemples. Vous avez parlé de Kadhafi et Saddam Hussein. Moi, je vais vous citer quelques exemples depuis les années 50 où il y a eu des interventions où le nucléaire n'a rien protégé. Quand les Chinois ont envahi la Corée en 1950, le nucléaire n'a rien protégé. Quand Israël a été attaqué par l'Égypte, alors qu'Israël possède, contrairement, ils ne le disent jamais, possède des armes nucléaires lors de la guerre du Kippour. Quand les Malouines ont été attaquées par l'Argentine, c'est un territoire du Royaume-Uni, même s'ils étaient lointains, c'était les frontières du Royaume-Uni. Le nucléaire n'a pas protégé. Et je pourrais rajouter le Vietnam. Tous les conflits qui n'étaient pas des conflits entre grandes puissances, entre Est et Ouest, hein, où le nucléaire pouvait avoir un sens de dissuasion, le nucléaire n'a rien protégé.
Donc vous faites une différence entre conflits régionaux, même si la région peut être vaste, et équilibres internationaux.
Qui ne se posent plus aujourd'hui.
Caligan.
Alors moi je crois que, Dieu merci, la plupart des crises dans le monde ne sont pas des crises nucléaires, même quand elles engagent des puissances nucléaires. Et ça c'est le cas de la crise ukrainienne aujourd'hui, c'est le cas de la grande majorité des conflits régionaux depuis 1945, et c'est une bonne chose parce que si il y avait des gesticulations nucléaires à chaque fois qu'une puissance nucléaire était engagée, ce serait très mauvais à la fois pour l'équilibre international et ça augmenterait le risque d'une guerre nucléaire.
Il y en a eu, hein.
Mais il y a eu quelques cas dans ce domaine. Ce qui me paraît inquiétant sur l'impact indirect de cette affaire ukrainienne sur les équilibres nucléaires, c'est que ça peut conforter un certain nombre de pays dans la conviction que leur souveraineté, leur intégrité est mieux protégée par l'arme nucléaire, et c'est le problème de la prolifération, au moins en termes d'arguments et éventuellement dans une lecture un peu stratégique des choses.
C'est un peu la lecture que fait Ban Ki-moon. Hein, je citais ce qu'il disait donc le secrétaire général de l'ONU la semaine dernière au sommet sur la sûreté nucléaire de La Haye. Je vais le reciter de manière un petit peu plus longue d'ailleurs. Il a dit « La crédibilité des garanties données à l'Ukraine en 1994 a été sérieusement entamée par les événements récents. Les implications sont profondes, tant pour la sécurité que pour l'intégrité du régime de non-prolifération nucléaire. »
C'est pour moi le risque. Et s'ajoute à ça un deuxième risque, qui est que, de fait, l'espoir que nous pouvions avoir et que nous partageons sans doute tous les deux de voir le désarmement nucléaire américano-russe progresser à un rythme plus soutenu, aujourd'hui est battu en brèche. On voit les perspectives de désarmement des armes nucléaires tactiques en Europe, il y a environ encore 200 armes nucléaires américaines stationnées en Europe et quelques milliers d'armes russes. On avait l'espoir jusqu'en 2010, le concept stratégique de l'OTAN à l'époque en parle, de pouvoir s'engager dans un processus de réduction avec la Russie. Aujourd'hui, je ne vois pas ce processus avancer de quelque manière que ce soit. Il y a au contraire une demande nouvelle de réassurance et de dissuasion élargie de la part d'un certain nombre de pays de l'OTAN. De la même manière, l'idée que le New Start, le traité signé par Obama et Medvedev, qui prévoyait des réductions substantielles de ses arsenaux, devait être suivi par une étape à venir, paraît très difficile aujourd'hui d'imaginer que Russie et États-Unis vont réussir à se mettre d'accord sur les prochaines étapes du désarmement.
Voilà, New Start, c'était en 2010. Il y avait un engagement à réduire de 30% le nombre de têtes nucléaires.
Obama même proposé d'aller jusqu'à 1000 têtes. Il l'a proposé. Ça n'est pas encore, évidemment, ni décidé, ni négocié.
Est-ce qu'on peut y voir, alors là, justement, un effet indirect de cette crise ukrainienne, qui certes n'est pas une crise nucléaire, Paul Kiles, mais en tout cas, est-ce que ça peut avoir pour conséquence de ralentir la dénucléarisation? La Russie, par exemple, a menacé, c'est pour l'instant une menace, mais de ne plus se soumettre aux inspections qui sont prévues dans le cadre de ce fameux traité de New Start.
Il l'avait fait, certains l'avaient fait avant la crise ukrainienne. Il n'y a pas de conséquences directes. Mais entendons-nous bien, il y a ceux, et je lis la presse et j'écoute les spécialistes, ceux qui se réjouissent, non pas de la crise ukrainienne, mais de cette conséquence que vous évoquez, en disant, j'ai un papier, la crise ukrainienne redonne des couleurs à la dissuasion nucléaire. Certains ont rêvé. C'est en train d'être fait grâce à Poutine.
Voilà, j'arrive à dire que c'est un papier de l'opinion.
Voilà d'un journaliste qui écrit dans l'opinion maintenant.
Voilà, qui est venu chez nous déjà, Jean-Dominique Mercher.
Et qui, quand on le lit bien, se félicite en quelque sorte que le TNP soit battu en brèche, disant, le TNP, ça ne sert plus à rien, traité de non-prolifération. en oubliant tout simplement que dans le TNP, il y a un certain nombre d'articles, et notamment il y en a un qui est l'article 6, et qui dit que les puissances nucléaires autorisées, les cinq grandes puissances, puissances autorisées dotées de l'armement nucléaire, ont le devoir d'engager le désarmement. Alors, un peu optimiste au départ, il disait à court terme, rapidement. Bon, ça, c'est depuis les années 70. Il y a eu une décroissance forte. Et cette décroissance, moi, j'en fais le pari aujourd'hui. Et vous verrez que quand la crise ukrainienne sera derrière nous, parce qu'elle sera derrière nous, et vous verrez, on aura la surprise de voir Obama et Poutine négocier. Ils ne le font pas en public, évidemment, et trouver, et il faut l'espérer, une solution. Et des réponses, il y en a. Simplement, il faut savoir que quand on était dans le schéma de la guerre froide, il y avait des ennemis potentiels qui n'arrêtaient pas d'armer, de surarmer, qui se menaçaient et qui faisaient des guerres par pays interposés. On a bien analysé l'état de l'Afrique et du reste du monde en dehors de l'Union soviétique et du bloc occidental. Mais aujourd'hui, il y a un choix qu'il va falloir faire pour les Occidentaux. Vous voyez, je dis les Occidentaux. Savoir si la Russie est un partenaire, est un rival ou est un ennemi. Ça n'est pas la même chose. Et si c'est un ennemi, on en revient effectivement à la guerre froide. Et on en revient à un dispositif qui n'a pas lieu d'arrêter. Camille Grand parle à l'instant, bon, ça a l'air un peu abscon, des armes nucléaires tactiques. C'est des armes, les B-61, il y en a 180, des armes américaines, qui sont des armes qui sont sous les avions. Vous savez, c'est les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir avec les missiles. Eh bien, ces armes, tous les militaires, tous les spécialistes vous disent, elles ne servent plus à rien, n'ont plus aucune utilité opérationnelle éventuelle. Par contre, ce sont des armes de chantage entre l'Est et l'Ouest. Vous voyez, je reprends des concepts anciens. Vous avez des pays, dont la France, qui ne disent pas qu'il faut se débarrasser de ces armes, même s'il n'y en a pas en France. Vous avez bien sûr un pays balte, plus la Hongrie, qui disent non, non, il faut les garder. Et dans le même temps, les Russes en ont 2000, ils n'en ont pas 180, ils en ont 2000. Et eux disent, si vous ne voulez pas vous débarrasser de ces armes, ils font semblant, évidemment, c'est de la gesticulation. Et si vous ne voulez pas vous en débarrasser, c'est que vous avez des intentions belliqueuses envers nous. Comme pour le bouclier antimissile. Le bouclier antimissile dont les Russes font semblant de croire que c'est pour se protéger d'une attaque éventuelle des Russes. Alors que l'OTAN dit dans cela, pas du tout, c'est pour se protéger de l'Iran. Mais quand il n'y aura plus l'Iran, j'espère un jour, on dira quoi ?
Sur la relation avec la Russie, je crois qu'il faut se garder de deux écueils. Le premier, c'est une forme de panique et de retour à la guerre froide. La relation avec la Russie est désagréable, compliquée. C'est sans doute la fin d'un certain angélisme européen sur lequel on s'est accroché depuis la fin de la guerre froide, qui était l'idée que la Russie allait inévitablement rejoindre l'Europe, se rapprocher de nous. La réalité, c'est que la Russie est une puissance régionale majeure, qui a des intérêts contradictoires avec les nôtres dans l'espace ex-soviétique, et qui a une vision des relations internationales comme d'un jeu à somme nulle, et qui devient donc, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour les Européens qui n'aiment pas cette situation, qui devient donc un voisin qui n'est non coopératif. Ça n'en fait pas un ennemi au sens de la guerre froide. Il n'y a pas forcément la lutte idéologique telle qu'on l'avait imaginée. Mais on a une Russie qui, au fond, se pense comme une puissance régionale distincte du camp occidental et qui nous met dans une situation de confrontation non pas idéologique ou militaire, mais en tout cas de vraie rupture sur où ce rapprochement et cette coopération semble impossible, en tout cas aussi longtemps que M. Poutine est aux affaires.
Qui en livre des armements quand même, hein, ouais. Vous avez remarqué.
C'est que la crise actuelle ne va pas entamer à terme la volonté commune des États-Unis et de la Russie de poursuivre leur dénucléarisation.
Là où je ne suis pas forcément aussi optimiste que Paul Killet sur ce point, quand je dis ça, ça n'est ni quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais c'est finalement un regard un peu froid sur la situation. La situation est que l'angélisme, parce qu'il faut dire les choses un peu comme elles sont, des Européens, de beaucoup d'Européens, et parfois du président Obama, consistant à dire nous allons aller vers un système de sécurité coopératif dans lequel la dissuasion n'aura plus sa place, dans lequel on va être post-guerre froide, me semble malheureusement battu en brèche par l'attitude de M. Poutine, qui ne se met pas du tout dans cet état d'esprit, mais aussi par celle d'autres acteurs, comme de la Chine, qui est dans un processus de modernisation de ses arsenaux nucléaires, comme la Russie, et donc pose aux Occidentaux européens et américains une question fort difficile, qui est finalement de regarder le monde non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est, c'est-à-dire avec des puissances régionales qui sont dans des processus de rapport de force, y compris militaire, et le cas échéant, de course aux armements, y compris nucléaires.
Et tel qu'il est, vous considérez qu'il est encore trop instable pour pouvoir se passer complètement des armes nucléaires ?
Moi, je crois que ce que la crise ukrainienne nous dit d'une certaine manière, c'est qu'on ne peut pas exclure des crises majeures face à des puissances nucléaires. C'est une des choses, un des arguments qui est souvent utilisé par les défenseurs de la dissuasion, qui consiste à dire, au fond, des crises impliquant des puissances majeures nucléaires, la Russie, la Chine dans l'espace asiatique, ne sont pas complètement exclues. Ce qui incite effectivement à la prudence sur nos propres arsenaux, en se disant on doit avoir dans ce contexte une approche assez prudente de la thématique du désarmement, parce que je ne crois pas qu'il soit souhaitable de procéder à un désarmement unilatéral dans un tel contexte.
Paul Quillès.
Oui, vous dites on ne doit pas exclure, on ne peut pas exclure l'éventualité de crise entre grandes puissances. Bien sûr, bien évidemment. Et enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas preuve d'angélisme. Et quand vous dites il faut distinguer le monde tel qu'il est du monde qu'on voudrait, de tout temps, les gouvernements, en tout cas les plus responsables, se sont efforcés de faire évoluer le monde vers autre chose qu'un monde de guerre, un monde de crise. On célèbre le centenaire de la Première Guerre mondiale. Quand on se penche sur ce qui s'est passé à l'époque, sur le déclenchement de cette guerre, remonter simplement à l'été 14, mais bien avant, on se rend compte des erreurs d'analyse qui ont été faites et des enchaînements fous de diplomatie et d'État qui ne réalisaient pas qu'ils allaient vers l'abîme. Et je crois que le rôle de tout gouvernement, de tout État, de tout chef d'État responsable et d'État démocratique, bien évidemment, est d'essayer d'imaginer quel peut être ce monde meilleur. Et ce monde meilleur, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le dire, en France et dans le monde, c'est un monde où on fait disparaître ce danger pour l'humanité, qui est un armement monstrueux, si par hasard ou si par erreur, il venait à être mis en œuvre.
Mais c'est un processus qui ne peut être que multilatéral.
C'est ce que j'allais dire. Et bien évidemment, je ne prône pas l'unilatéralisme et je ne suis pas irresponsable en croyant que cela se fera en 6 mois, en 1 an, voire en 5 ans. Mais il faut mettre en marche un processus qui est en marche. Il a des périodes de ralentissement, c'est vrai, et peut-être que ce qui se passe en ce moment conduira à un ralentissement, mais je n'en suis pas sûr. Replongez-vous 1 an en arrière, la crise syrienne, la crise iranienne, et d'autres crises, il y en aura aussi en Extrême-Orient. Ces crises donnent le sentiment à un moment donné que l'histoire s'arrête ou même que l'on revient en arrière. Et il faut essayer de déterminer les raisons des crises. Vous avez vous-même, Camille Grand, tout à l'heure, dit que vis-à-vis de la Russie, l'Europe a été naïve, angélique, elle a commis des erreurs, y compris dans l'affaire ukrainienne. On ne peut pas en parler ce soir, mais on pourrait faire la liste des erreurs qui ont été commises par l'Europe, par Poutine aussi, mais ce n'est pas notre problème, si je puis dire. Nous avons commis des erreurs. S'agissant du nucléaire, vous savez très bien qu'une promesse avait été faite à Gorbatchev, à l'époque de la chute de l'Empire soviétique, de ne pas faire entrer les pays ex-satellites de l'Union soviétique dans l'OTAN. Ça n'a pas été tenu. C'est une promesse qui n'a pas été tenue. Est-ce que l'idée de demander à l'Ukraine de choisir entre la Russie et l'Union européenne, ça n'était pas une erreur? C'était une erreur. Ça doit être un pont entre ces deux empires, si je puis appeler l'Union européenne un empire. Mais il ne fallait pas donner le choix. On a même parlé d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça, c'était le chiffon rouge. Bon, je veux dire, si on ne voit pas l'origine des crises, on ne sait pas les résoudre.
Camille Grand.
D'abord, je crois profondément que l'avenir de l'Ukraine appartient aux Ukrainiens. Et que si les Ukrainiens veulent entrer dans l'Union européenne ou même dans l'OTAN, il est normal que nous posions un certain nombre de conditions, et ce qu'on a toujours fait dans les processus d'intégration dans ces deux organisations. Mais in fine, c'est une décision souveraine des Ukrainiens et des alliés dans ce dispositif.
De tous les Ukrainiens.
de tous les Ukrainiens, oui. Évidemment. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une Russie qui accorde à l'Ukraine, comme le faisait Brejnev avec les pays du pacte de Varsovie, une souveraineté limitée, c'est-à-dire que l'Ukraine n'a pas le droit de décider de son orientation économique, de son orientation politique d'ailleurs, parce que l'idée que l'Ukraine soit une démocratie vivante insupporte M. Poutine, et ainsi de suite. Donc on est dans quelque chose où les Européens aient commis moult maladresses dans le dossier ukrainien, c'est sans doute vrai, mais je crois qu'on ne peut pas mettre ça sur le même plan que les pressions russes sur un pays qui devrait être souverain, dont la souveraineté a été reconnue. Ce qui m'inquiète en réalité dans le déroulé de la crise actuelle, même si évidemment tout le monde va chercher une sortie de crise, c'est le fait que la Russie ait décidé de s'asseoir sur une série de textes et de traités fondateurs de l'ordre international de l'après-guerre froide et même de la guerre froide, puisque la Russie, par son action en Ukraine, a non seulement déchiré le mémorandum de Budapest qu'on disait tout à l'heure, qui permettait la dénucléarisation de l'Ukraine, en échange de la reconnaissance de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, et elle s'est également assise, et ça c'est très inquiétant, sur l'acte final d'Helsinki, signé par un grand démocrate qui était M. Brejnev en 1975, et qui reconnaissait l'intangibilité des frontières en Europe. Donc on a là-dessus une posture russe qui est préoccupante.
Mais est-ce qu'on pourrait dire, Camille Grand, pour revenir sur la question du nucléaire, que justement cette recherche d'une sortie de crise et le fait qu'on voit bien que tout le monde finalement se contenterait de la seule annexion de la Crimée si ça ne devait pas aller au-delà par la Russie, est-ce qu'on peut aussi y voir l'effet de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire des grandes puissances, cette fois, donc à l'échelle vraiment mondiale, qui sont bien conscientes qu'elles ne peuvent pas aller trop loin dans une crise, du fait notamment qu'elles appartiennent au cercle fermé des grandes puissances nucléaires.
Je reviens toujours à une citation de Winston Churchill qui disait qu'à l'âge nucléaire, les grandes puissances se font la guerre comme les hérissons font l'amour, c'est-à-dire en faisant très attention. Et je crois que...
apparemment des informations sur les hérissons.
Et je crois que l'arme nucléaire a cette vertu qu'elle impose à ses détenteurs une forme de prudence dans les relations internationales. Et ça, c'est quelque chose...
Et tout le monde n'est pas capable de cette prudence. Il faut avoir une forme de maturité, selon vous, pour pouvoir manier cette menace.
Je pense qu'on doit là-dessus être très raisonnable, et on peut très bien concilier des objectifs de désarmement, des objectifs de non-prolifération et le respect de la dissuasion. Dans ce dispositif-là, ce qui me paraît important, c'est de rappeler, au fond, que s'agissant des relations entre les grandes puissances, les pays du P5, peut-être quelques autres qui appartiennent à ce club un peu fermé, l'arme nucléaire a la vertu de rappeler à chacun les conséquences d'une crise pouvant déboucher sur une guerre mondiale et donc de nous épargner le retour des conflits majeurs entre grandes puissances. Ça n'empêche pas les guerres, malheureusement, et il ne faut pas charger l'arme nucléaire de toutes les vertus, bien au contraire. Ayant dit cela, toute la question aujourd'hui, c'est de se dire, dans la relation avec la Russie, est-ce que l'arme nucléaire est un atout ou un handicap? Moi, je crois que le fait que les puissances occidentales, l'OTAN, que l'OTAN soit une alliance nucléaire, est un rappel utile à la Russie si les dirigeants russes étaient tentés par une fuite en avant pour reproduire ce qui s'est passé en Ukraine, dans les pays baltes, en Moldavie, etc. C'est un élément d'arrière-plan, mais qui peut se révéler précieux dans des cas extrêmes.
Je vais poser une question qui est une question grossière et qu'on ne pose jamais quand on a un débat sur l'arme nucléaire. Je fais assez de ces débats pour savoir que c'est une question tout à fait incongrue. C'est le nucléaire, là, en l'occurrence, la menace aurait été de l'utiliser comment? Alors, on me dit toujours, il faut laisser planer le doute. Mais le doute, là, c'est quoi? Si l'Ukraine avait conservé ses 1900 têtes, elle aurait menacé qui et de quoi?
Je crois que sur cette question-là, la réalité des crises nucléaires, quand on les analyse une par une des crises nucléaires, en particulier de la guerre froide, il n'y en a pas eu beaucoup depuis la guerre froide, Dieu merci, c'est qu'au fond, quand Chinois et Américains se frottent à propos des détroits de Taïwan à quatre ou cinq reprises pendant la guerre froide, et à une ou deux reprises depuis la fin de la guerre froide. Quand Russes et Américains font face à des situations comme l'invasion de la Tchécoslovaquie ou de la Hongrie, c'est en réalité une incitation à la prudence dans ces relations. Après, est-ce qu'une Ukraine nucléaire n'aurait pas été envahie par la Russie ? Tout dépend de quelle Ukraine nucléaire on parle. Il est évident que l'Ukraine n'aurait sans doute pas eu les moyens de conserver 2000 têtes nucléaires, d'entretenir un arsenal et ainsi de suite. Et donc, je ne suis pas certain que ça aurait eu un effet radical.
Donc, vous êtes en train de dire c'est indifférent. Et quand on dit l'Ukraine, vous dites l'Ukraine, c'est le gouvernement légitime de l'Ukraine. Quel était-il ? Et quel aurait été, dans cette hypothèse, le gouvernement ? Est-ce que c'était les révolutionnaires de la place Maïdan ? Est-ce que c'était le président déchu ? Qui aurait eu le pouvoir de...
Bon, alors on a parlé de l'Ukraine parce que c'est vrai que c'est une question qui presque sans fin hein, sur cette crise ukrainienne. On a parlé d'énormément de grandes puissances nucléaires ce soir. Il me semble que nous n'avons pas encore parlé de la France, Paul Quillès. La France qui fait partie effectivement des pays. C'est vrai qu'on ne questionne que très rarement finalement ce qu'est la dissuasion nucléaire française. En tout cas, dans le débat grand public, hein, je ne parle pas du débat entre spécialistes. Puisqu'on se demande si l'Ukraine aurait été en meilleure sécurité si elle avait encore eu ses armes nucléaires, est-ce qu'on peut aussi poser la même question pour la France ? Est-ce que la France est plus en sécurité malgré tout grâce à sa force de dissuasion ?
J'ai souvent eu l'occasion de répondre, d'écrire là-dessus, de débattre, même avec les migrants. La théorie officielle, qui n'a pas beaucoup changé depuis quelques années, c'est l'assurance vie, c'est la sécurité. Et je fais remarquer en passant que quand on dit que le nucléaire nous donne indépendance, puisqu'on est dans l'OTAN, mais là, on n'y est pas tout à fait, nous procure une assurance vie, il est difficile de réfuter à d'autres pays, comme l'Iran, par exemple, le droit d'avoir finalement son assurance vie. Simplement, il y a eu un traité que la France a ratifié tard, en 92, qui est le traité de non-prolifération. Et je le répète...
Elle fait des efforts, la France aussi. Hein. Elle a arrêté les essais nucléaires, elle a réduit ses armes.
Oui, j'en sais quelque chose. La France a fait de gros efforts pour réduire. Mais en même temps... Elle modernise et elle prépare d'ailleurs des modernisations importantes, ce qui est une hypocrisie notoire, puisque l'article 6 que je citais tout à l'heure du traité de non-prolifération dit qu'il faut réduire l'armement nucléaire et aller vers sa disparition.
Donc il faudra au moins arrêter de moderniser.
C'est-à-dire ce qu'on appelle la prolifération horizontale et verticale. Horizontale, c'est le nombre de pays qui sont détenteurs de l'arme nucléaire. Verticale, c'est en modernisant. C'est-à-dire qu'on en a moins, mais on le modernise, les missiles vont plus loin, les sous-marins nucléaires sont modernisés, remplacés, etc.
Je crois que c'est dans votre livre, Paul Quillès, que j'ai lu que dans l'actuelle décennie, 1000 milliards de dollars dépensés dans le monde pour moderniser les équipements nucléaires.
Oui, absolument. Bon, c'était des chiffres considérables à une époque où quand même l'argent, j'allais dire, se fait rare et où les crises économiques sont de plus en plus dangereuses. Ce sont des dépenses dont on pourrait se dispenser. Mais je n'utilise pas beaucoup cet argument. Parce que je pense que quand on parle de politique de défense, il faut d'abord savoir contre quoi on veut se défendre et avec quoi et avec qui. Si on ne se pose pas ces questions, on raconte des histoires. Et souvent sur le nucléaire, permettez-moi de vous dire, je suis étonné de voir les histoires qu'on raconte aux Français, à qui on ne demande pas leur avis parce qu'on leur dit que c'est trop compliqué. Hein, à une époque, il y avait un ministre de la Défense... déjà bien des années, qui disait que c'est des questions qu'il faut garder secrètes parce que c'est trop compliqué.
Il y a d'ailleurs un certain nombre de militaires qui n'ont peut-être pas une approche idéologique de la question, mais tout simplement pragmatique, Camille Grand. On l'a vu par exemple à la faveur des interventions françaises au Mali et en Centrafrique, où, parce qu'on était un petit peu avant le débat sur la loi de programmation militaire, où certains disaient pourquoi dépenser autant sur la dissuasion nucléaire alors qu'on aurait peut-être besoin de mieux équiper, par exemple, nos armées en armes conventionnelles, d'avoir davantage d'hommes sur le terrain.
Alors, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres. On dépense environ 3 milliards d'euros pour la dissuasion chaque année. Ça représente 0,15% du PIB national et à peu près 10% du budget de la défense.
20% du budget d'équipement.
ce qui en fait un poste important, mais à l'échelle des 1000 milliards de dépenses publiques, en 3 pour 1000, ça paraît pas forcément excessif pour quelque chose qui a une telle valeur pendant notre politique de défense. Alors, je crois la France est dans un double mouvement. D'abord, la France, vous le rappeliez, a désarmé. Elle ne fait plus d'essais nucléaires depuis 1996. Elle a arrêté la production de matières fissiles. Elle a réduit son stock d'armes nucléaires de moitié depuis la fin de la guerre froide. Toutes les puissances nucléaires n'ont pas un bilan de ce type à afficher. Ni la Chine ni les États-Unis n'ont ratifié le traité d'interdiction des essais nucléaires. La Russie ou
mais
la
Chine... Il n'y a plus les essais parce qu'il y a des méthodes de simulation
exactement,
maintenant
ouais.
qui permettent de s'en passer.
Matériaux fissiles parce qu'on a 50 ans de réserve.
Alors après, est-ce que... il me semble que la France prend sa part dans cet effort. Mais encore une fois, on doit le faire dans un monde qui... bouge, où on est confronté à une évolution du paysage nucléaire, avec à la fois les phénomènes de prolifération, qui sont limités à quelques États, mais fort préoccupants, avec les phénomènes de conflits entre puissances, dont l'affaire ukrainienne est un exemple préoccupant. Et donc, au fond, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que la dissuasion a encore sa place dans notre posture de défense aujourd'hui ? Ma réponse est de dire que oui, parce qu'elle offre cette garantie et cette certitude au chef de l'État dans la manœuvre de défense plus générale, et qu'on doit donc maintenir un effort qui est somme toute modeste aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Alors, on peut être pour, on peut être contre. C'est peut-être une question qui mériterait d'être posée aux parlementaires, par exemple,
Paul Quillès. Oui, j'étais président de la commission de la défense pendant 5 ans.
Et j'ai remarqué les difficultés. Vous disiez, je ne participe pas beaucoup de débats, oui. Mais les débats publics sont extrêmement rares sur le sujet.
Non, il n'y en a quasiment pas. Et quand un débat sur ce sujet vient en public, il y a 8 parlementaires en séance. Ça, c'est quelque chose qui est assez grave pour une démocratie. Je conviens tout à fait que c'est un sujet complexe, qu'il y a des débats entre experts, etc. Mais quand il s'agit de la défense de notre pays, quand il s'agit de savoir ce qu'on fait de nos alliances et quel est le sens de nos alliances, ce débat qu'on ne va pas engager à cette heure-ci, mais de savoir que l'OTAN offre une protection nucléaire, mais la France, en plus, veut garantir son indépendance tout en apportant son armement nucléaire à l'OTAN. Tout ceci est d'une extrême complexité. Ça fait beaucoup d'argent, effectivement. Ça fait des dangers. Et surtout, moi, ce que je regrette, vous avez posé la question tout à l'heure, de dire « et la France ?» c'est que la France ne prenne pas position sur le désarmement nucléaire global de façon plus positive. Et d'autres pays le font et qu'elle ne se considère pas comme en dehors du lot, comme elle se considère aujourd'hui.
Alors cette difficulté à mettre le nucléaire dans le débat public aujourd'hui en France peut paraître particulièrement surprenante quand on remonte quelques années en arrière où la peur du nucléaire était quand même assez présente, pas seulement dans les fictions, mais dans la vie presque quotidienne. Il y avait des peurs importantes, mais aussi des espoirs démesurés. Assez démesuré en tout cas, c'est l'avis de l'anthropologue Victor Stokowski. Il est anthropologue des savoirs et des croyances à l'EHESS. Il réfléchit justement sur ces questions. Écoutez ce qu'il dit de ce qu'étaient ses peurs et ses espoirs il y a 40-50 ans. Il le dit à Sarah Petitbon.
Les armes nucléaires doivent leur invention à une convergence des causes rationnelles, à savoir un travail de recherche favorisé par un besoin militaire et une demande politique. Pourtant, l'opinion publique les a d'emblée perçus selon un schéma emprunté à la pensée religieuse, tantôt comme un instrument de salut, capable de mettre un terme définitif au problème de l'humanité, tantôt comme une menace apocalyptique, pouvant mettre un terme tout aussi définitif à l'existence même de l'humanité. Par exemple, certains ont imaginé dans les années 50 que les explosions nucléaires pourraient servir à détourner le cours des rivières, afin de transformer les déserts en plaines cultivables. D'autres espéraient que des mutations provoquées par les retombées radioactives seraient à même de produire une espèce humaine perfectionnée, supérieure. À l'opposé, on s'est mis rapidement à redouter une apocalypse atomique, qui serait une punition infligée à l'humanité coupable de transgresser l'ordre naturel, de s'être emparée d'une force incompatible avec la faiblesse morale de l'être humain. Ceux qui proposent la dénucléarisation se présentent parfois comme des défenseurs de l'humanité face à un danger apocalyptique.
Voilà, la dimension religieuse par rapport à l'approche du nucléaire, ça mériterait sans doute des commentaires, mais nous n'avons plus le temps. Merci en tout cas à vous deux, Paul Quilès et Camille Grand, d'avoir participé à ce débat que vous pouvez commenter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr. Demain, c'est Olivia Gisbert qui officiera pour un débat depuis le Parlement de Bruxelles, débat entre députés européens consacré aux questions d'immigration. Pour ma part, je vous retrouve demain au matin, ce sera à partir de 6h30, toujours sur France Culture. Et tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard.